VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du lundi 2 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, la plateforme de l'opposition dénonce le prochain passage à un régime présidentiel intégral.
Renvoi chez eux au Burundi de 1600 réfugiés arrivés début mars au Rwanda et venant de la République démocratique du Congo.
En Sierra Leone, les résultats du second tour de l'élection présidentielle pourraient être connus aujourd'hui ou demain.
Le Conseil de sécurité de l'ONU avertit par Rabat d'incursions gravissimes du Front Polisario dans la zone tampon du Sahara occidental.
En Syrie, et selon la Russie, les rebelles auraient accepté de se retirer de la dernière poche de la Ghouta orientale qu'ils contrôlent encore.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, la principale plateforme de l'opposition a rejeté les résolutions du Forum national qui prévoit l'instauration d'un régime présidentiel, les jugeant grossières, ridicules et fantaisistes. Le point avec Idriss Fall.
Le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement condamne et rejette toutes les résolutions grossières, ridicules et fantaisistes issues du Forum national tenu fin mars, selon le communiqué du FONAC qui regroupe une trentaine de partis. D'après cette coalition de l'opposition, le prochain passage à un régime présidentiel intégral va renforcer les pouvoirs du président tchadien. Idriss Déby, 65 ans, est à son cinquième mandat qui s'achève le 21 août 2021. Selon la nouvelle constitution, il pourrait se représenter en 2021 et théoriquement effectuer deux autres mandats de 6 ans jusqu'en 2033. Le Tchad a adopté mardi un régime présidentiel au cours d'un forum national boycotté par l'opposition. Le FONAC réitère son appel à la tenue d'un dialogue inclusif pour l'opposant Salaire Kep Zabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, quelques apparences restées. Maintenant, c'est un pouvoir sans partage.
Environ 1600 Burundais qui s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo avant de passer au Rwanda début mars ont été renvoyés hier par les autorités rwandaises au Burundi. D'après Kigali, ils refusent pour des raisons religieuses les enregistrements biométriques et les vaccinations. Précision de Timothée de Langmaï.
Ces réfugiés se trouvaient à Gashora, dans le sud-est du Rwanda. Ils ont été acheminés au poste frontière de Gasenyi-Nemba, dans le nord-est du Burundi. En 2015, plus de 2500 Burundais s'étaient réfugiés à Kamanyola en RDC à la suite de tirs de la police burundaise à Busindi. Selon les Nations Unies, à la mi-septembre, au moins 38 Burundais ont été tués par l'armée congolaise. Le reste des réfugiés s'étaient donc rendus à pied au Rwanda pour demander l'asile le 7 mars. Le gouvernement rwandais les avait placés dans 3 sites de transit. Mardi dernier, une trentaine de réfugiés ont été arrêtés après des échauffourées avec des agents du HCR qui tentaient de les enregistrer. Selon le ministère rwandais des Affaires étrangères, ces réfugiés ont refusé l'enregistrement biométrique et les règles de santé comme la vaccination des enfants de moins de 5 ans en invoquant leurs croyances religieuses. La majorité d'entre eux sont des adeptes de la prophétesse Zébia qui assure avoir eu des visions de la Vierge Marie dans le nord du Burundi.
En Sierra Leone, on devrait connaître aujourd'hui ou demain les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Le dépouillement des voix se poursuivait hier, au lendemain d'un scrutin dont le déroulement a été jugé satisfaisant par les observateurs ouest-africains, malgré la présence parfois intimidante des forces de sécurité dans certains bureaux de vote. En lice, le candidat du parti au pouvoir, l'APC, Samora Camara, et celui du principal parti d'opposition, le SLPP, Julius Maada Bio.
Les autorités marocaines ont annoncé hier avoir alerté le Conseil de sécurité de l'ONU après ce qu'elles ont appelé des incursions gravissimes du Front Polisario dans la zone tampon du Sahara occidental. Anastasie Toudiech fait le point.
Le Maroc accuse le Front Polisario, indépendantiste soutenu par l'Algérie, de mener des incursions dans la zone tampon près de Guerguerat à la frontière avec la Mauritanie. Le Sahara occidental est le seul territoire du continent africain dont le statut post-colonial n'a pas été réglé. Le Maroc en contrôle 80%, le Front Polisario 20%. Les deux zones sont séparées par un mur et une zone tampon contrôlée par les casques bleus. Il y a eu des provocations, des manœuvres du Polisario encouragées par l'Algérie pour modifier le statut de cette zone tampon, a déclaré le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita lors d'une conférence de presse. Le Maroc réagira avec détermination et par tous les moyens à toutes les actions qui pourraient changer le statut de cette zone. Il s'agira d'un casus belli dont le Maroc tirera tous les enseignements, a prévenu M. Bourita. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé fin mars à l'envoyé spécial pour le Sahara occidental de poursuivre les discussions sur une relance de négociations visant à régler le différend autour de ce territoire. Aucune date n'a été annoncée pour reprendre des pourparlers formels, les derniers en date, sous l'égide de l'ONU, remontant à 2012.
En Somalie, des combattants Chebab ont attaqué hier une base militaire de l'Union africaine à l'extérieur de Mogadiscio, où 4 soldats ougandais ont été tués et 6 autres blessés, selon l'armée ougandaise. Un responsable de la sécurité locale a déclaré à l'AFP que les combattants Chebab ont utilisé un minibus chargé d'explosifs pour entrer avant le début des affrontements dans le camp.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, accord préliminaire selon l'armée russe sur le retrait des rebelles de la dernière poche de la Ghouta orientale qu'ils contrôlent encore. Les rebelles eux-mêmes n'ont pas encore confirmé cette information et les Russes, alliés du régime syrien, n'ont pas précisé quand cette évacuation allait commencer. Un tel retrait signifierait en tout cas la reconquête totale par les forces du président Bachar al-Assad de cette enclave située non loin de la capitale, Damas, après une offensive militaire de 6 semaines qui a coûté la vie à quelques 1600 civils, fait des milliers de personnes déplacées et causé une crise humanitaire.
Nouvelle diatribe hier du président américain Donald Trump contre le Mexique, qu'il accuse de ne rien faire pour empêcher les migrants d'Amérique centrale de franchir ses frontières. M. Trump a appelé les républicains du Congrès à adopter des lois d'immigration sévères, Jean-Roger Bion.
Le Mexique en fait très peu, si ce n'est rien, pour empêcher les gens d'entrer au Mexique par sa frontière sud, puis aux États-Unis, a tweeté M. Trump dimanche matin. Les gardes frontières n'ont pas le droit de faire leur travail correctement à la frontière à cause de lois progressistes ridicules. Des caravanes arrivent. Quelques minutes avant le tweet du président, la chaîne Fox News avait fait référence à la marche à travers le Mexique de quelques 1500 migrants venus du Guatemala, du Salvador et du Honduras. En faisant voyager les migrants en groupe et au vu de tous, les passeurs, une organisation de volontaires appelée Pueblos Sin Fronteras, Peuple Sans Frontières en espagnol, espèrent les protéger des autorités, mais aussi des gangs et des cartels dont ils sont régulièrement victimes quand ils sont isolés. Les républicains doivent faire approuver des lois sévères maintenant et le Mexique doit arrêter le flot de drogue et de gens où j'arrête leur vache à lait, l'ALENA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, a poursuivi Donald Trump sur Twitter. Besoin du mur, a-t-il conclu avec un point d'exclamation.
Au Mexique même, les candidats à l'élection présidentielle ont lancé hier leur campagne en répondant à la diatribe de Donald Trump. Le candidat de gauche, Andrés Manuel López Obrador, actuel favori des sondages, a déclaré depuis Ciudad Juárez, à la frontière avec l'État américain du Texas, qu'il allait exiger du respect pour les Mexicains. Son principal rival, le conservateur Ricardo Anaya, qui dirige une coalition de partis de droite et de gauche, a exigé de la fermeté et de la dignité après les nouvelles déclarations du président américain.
Au Costa Rica, le candidat de centre-gauche Carlos Alvarado a largement remporté le second tour de la présidentielle avec 60,66% des voix, selon des résultats portant sur plus de 90% des voix annoncées officiellement dimanche soir. Cet ex-ministre du Travail, âgé de 38 ans, faisait face au pasteur évangéliste Fabricio Alvarado, sans lien de parenté. Ce dernier, qui a obtenu 39,33% des voix, a reconnu sa défaite et appelé son adversaire pour le féliciter.
La station spatiale chinoise Tiangong 1 s'est désintégrée ce lundi lors de sa rentrée dans l'atmosphère au-dessus de la partie centrale du Pacifique Sud au terme de 2 années de vol incontrôlé en orbite.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Le Burundi vient d'obtenir 33 millions de dollars auprès de la Banque mondiale pour doubler la puissance électrique nationale. Ces fonds serviront à la mise en œuvre du projet de construction des deux barrages électriques sur les rivières de Jiji et de Murembwe dans le sud du pays. Carena, la compagnie abidjanaise de réparation navale, vient d'investir 5 milliards de francs CFA dans l'acquisition d'un troisième dock de 175 mètres. Carena est la filiale du groupe Bolloré Transport Logistique. Cette nouvelle infrastructure permet de doubler la surface d'accueil des navires à sec et d'accueillir simultanément 15 à 20 navires sur le site. Des accusations de corruption à la tête de la SOGEAC en Guinée font scandale. Plus de 4 milliards de francs guinéens auraient disparu des caisses de la société d'exploitation de l'aéroport international de Conakry. Le directeur général Oulaba Kabassane Keïta doit répondre de malversations financières. Il a reconnu avoir fait travailler des fournisseurs à prestations récurrentes sans contrat.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le premier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans.
Oui, dont la phase finale aura lieu au Niger en 2019. Et notons la bonne performance du Burundi qui est allé battre l'Éthiopie sur la marque de 2-0. Le Gabon a pris le large à domicile 4-0 devant le Togo. Et puis la Guinée-Bissau s'impose 1-0 à domicile face à la Sierra Leone. Enfin, notons le nul 1 partout entre le Kenya et le Rwanda.
Pour les autres résultats, notons la contre-performance du Maroc.
Les Lionceaux de l'Atlas se sont mis en danger. En déplacement en Mauritanie, ils se sont inclinés 2-0. Par contre, à domicile, l'Algérie a tenu son rang, dominant la Tunisie 3-1. Large victoire 5-1 de l'Ouganda face au Soudan du Sud. Pour le reste, la Tanzanie et la RD Congo se sont quittés sur un score nul et vierge à Dar es Salaam. Même score entre les Seychelles et le Mozambique, tout comme le Botswana face à la Namibie. 0-0 également entre le Malawi et le Swaziland. Il faut signaler que le Bénin est qualifié suite au forfait du Libéria. Les écureuils juniors vont affronter au second tour la Gambie.
Au Congo-Brazzaville, Sébastien Migné quitte son poste de sélectionneur.
Un peu plus d'un an après son arrivée à la tête du Congo-Brazzaville, l'entraîneur français s'en va. Migné précise que certaines clauses du contrat n'ont pas été respectées. Son départ s'inscrit dans la foulée de ce qu'il lui-même qualifie de semaine très agitée en région parisienne, en référence au match amical annulé puis finalement maintenu contre la Guinée-Bissau le 25 mars dernier. Finalement, victoire des Diables Rouges 2-0.
Mondial 2026, l'Algérie officiellement derrière le Maroc.
Oui, candidat à l'organisation du Mondial 2026, le Maroc pourra compter sur le soutien de son voisin l'Algérie. Après avoir autorisé l'ancien international Lakhdar Belloumi à devenir l'ambassadeur de la candidature du royaume chérifien à l'organisation du Mondial 2026, l'Algérie a officiellement annoncé son soutien en faveur du voisin. Après la Fédération française de football, il s'agit d'un deuxième soutien symbolique fort pour le Maroc. Le 13 juin prochain, les 211 fédérations membres de la FIFA seront invités à voter pour désigner le pays hôte du Mondial 2026, soit le Maroc donc, soit le trio États-Unis, Mexique, Canada.
Volleyball à présent avec la Coupe d'Afrique des clubs champions.
Et la compétition en board aujourd'hui, c'est quart de finale au Caire en Égypte. À l'affiche, Chouébli du Libéria contre Ali de Libye. En deuxième heure, on aura droit à une explication 100% égyptienne, Smoura face à Aviation. Et puis le tenant du titre, Al Ahly d'Égypte face à GSU du Kenya. Enfin, la dernière explication mettra aux prises El Geish d'Égypte contre Prison du Kenya. Et puis, pour finir, de la NBA, championnat américain de basketball. Les résultats de la nuit avec vous, Idrissa.
Philadelphia Sixers et Charlotte Hornets, 119-102. Chicago Bulls et Washington Wizards, 113-94. San Antonio Spurs et Houston Rockets, 100-83. Indiana Pacers et les Clippers, 111-104. Atlanta Hawks et Orlando Magic, 94-88. Detroit Pistons et Brooklyn Nets, 108-96. Cleveland Cavaliers et Dallas Mavericks, 98-87. Oklahoma City Thunder et New Orleans Pelicans, 109-104. Utah Jazz et Minnesota Timberwolves, 121-97. Golden State Warriors et Phoenix Suns, 117-107. Portland Trail Blazers et Memphis Grizzlies, 113-98. Sacramento Kings et LA Lakers, 84-83.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est le nouveau président de l'UDPS, le principal parti d'opposition du pays. Il a été élu avec plus de 90% des voix à l'issue d'un congrès extraordinaire de 2 jours organisé au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social à Kinshasa. Félix Tshisekedi succède ainsi à son père, Étienne Tshisekedi, et portera le projet du plus vieux parti d'opposition en RDC à la prochaine présidentielle. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Élu à une écrasante majorité, soit 98,38% de voix sur les 803 votants, Félix Tshisekedi a par la suite été investi samedi soir président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, succédant ainsi à son défunt père, l'emblématique Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Conscient de la tâche qui l'attend, Félix Tshisekedi a d'emblée promis de demeurer dans l'ADN politique de son géniteur et défunt président et prononcé un premier discours plutôt rassembleur qui a confirmé le principe des alliances pour remporter les prochaines élections.
Je tâcherai de demeurer dans son ADN politique, dépositaire des valeurs qu'il a défendues jusqu'à sa mort, valeurs de constance, d'abnégation et de loyauté envers ses engagements. C'est donc en vrai résistant et combattant que j'accepte de porter l'étoffe de président de notre cher parti aujourd'hui. C'est moi qui conduirai la destinée du parti, mais je ne le ferai pas seul. Si je l'ai accepté, c'est aussi parce qu'une telle charge implique toujours déjà et nécessairement l'apport des autres. J'aurai besoin de tout le monde, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, cadres et combattants tout court. Chers camarades, mon accession à la présidence de l'UDPS soulève naturellement la question de savoir quelle sera mon offre politique. Celle-ci peut se résumer en 3 objectifs. Le premier objectif consiste à organiser, consolider et élargir l'ancrage national du parti. Le second objectif est naturellement la conquête du pouvoir au scrutin du 23 décembre prochain. Nous sommes et resterons ouverts aux alliances politiques et électorales, comme l'a attesté l'ex-président Lula en disant qu'en politique, les alliances, ce n'est pas l'affaire de principe, mais de conjoncture.
Durant les 2 jours du congrès extraordinaire de l'UDPS, l'accompagnement des leaders politiques de l'opposition a été très remarqué. Vital Kamerhe de l'Union pour la Nation Congolaise et Eve Bazaïba du Mouvement de Libération du Congo ont notamment pris la parole pour rappeler le sens de leur présence à ce congrès et prodiguer quelques conseils aux successeurs d'Étienne Tshisekedi.
Nous sommes venus ici pour dire la solidarité de l'UNC au gré de la qui est de l'opposition l'UDPS.
Il est difficile de remplacer cette icône que nous avons tous surnommé le président national de l'UDPS, mais celui qui va succéder donc aux destinées de l'UDPS a la responsabilité de mettre la peau réellement de Josué parce qu'il y avait Moïse.
Les combattants de l'UDPS étaient particulièrement nombreux également lors de ces 2 jours de congrès. La permanence du parti était tellement débordée de monde qu'un écran géant a été placé dehors pour permettre à ceux qui n'ont pas pu accéder à la salle de suivre ce qui s'y déroulé. Et après l'élection de Félix Tshisekedi samedi à 3h du matin, ils étaient bien évidemment satisfaits et pleins d'attentes.
On est ravis parce que c'est tout le monde qui voulait que Félix se passe pour que le nom de Tshisekedi reste.
Ce sont des sentiments de joie, d'une lutte soutenue, d'un engagement. Et aujourd'hui, Félix est parvenu là où le peuple l'attendait. Et nous lui souhaitons bien de bonnes choses. Surtout, nous espérons qu'il suivra la trace qu'a laissée son père. Que les combattants comprennent, qu'ils les soutiennent et qu'ils fasse toujours des critiques objectives pouvant l'aider à mieux faire les choses.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En République centrafricaine, alors que 70% du pays reste sous le contrôle des bandes armées, le président Faustin Archange Touadéra a célébré vendredi dernier sa 2e année au pouvoir. Une célébration en grande pompe pour ses partisans est considérée comme un gaspillage d'argent par l'opposition. Deux ans au pouvoir, pour quel bilan? Élément de réponse à Bangui avec le correspondant de VO Afrique, Freeman Sipila.
Élu à l'issue des élections jugées crédibles et démocratiques, marquant la fin d'une transition politique de trois ans, Faustin Archange Touadéra a officiellement prêté serment le 30 mars 2016. Dès sa prise de fonction, le nouveau président élu parmi une trentaine de concurrents s'engage entre autres à ramener la sécurité, promouvoir l'économie, garantir la santé des Centrafricains et rehausser le niveau de l'éducation. Après deux ans au pouvoir, Faustin Archange Touadéra dresse un bilan à mi-parcours.
Deux ans où les Centrafricains m'ont confié la charge de conduire la nation, qu'est-ce que j'en ai fait? Mais vous savez, notre pays revient de loin, très loin. Nous avons traversé des moments très difficiles. Les fondamentaux de l'État n'étaient plus en place, il fallait reprendre. Les institutions non plus, l'armée nationale, l'économie, la sécurité. Même suivant la stratégie que nous avons mise en place, il y a eu des avancées dans certains secteurs parce qu'il fallait faire pas à pas. L'incompréhension vient du fait que si vous avez un champ de problèmes comme ça, quand vous essayez de résoudre ça, on vous dit ça. Et tout est urgent. Et des gens de mauvaise foi continuent de dire que « mais vous avez fait ça, mais il y a ça que vous n'avez pas fait ».
Bilan positif ou insatisfaisant, dans les rues, les réactions des Bangui-sois divergent.
Ce n'est pas la fête, ce n'est pas le fait de donner des t-shirts, donner de l'argent, donner de quoi manger aux gens qui dit que le président est en train de bien faire. Il faut le bien-être de sa population.
Bon, ça reste encore précoce. C'est pas ce que nous voulons. Hein.
La section de route qui a été réhabilitée par le président Touadéra, là, ce sont les preuves qui ont été vues. Les enfants vont à l'école normalement. On a vu de nos propres yeux, il n'y a pas ce qu'on appelle la crise scolaire.
Pendant les deux ans, il y a certains qui ont été réalisés, mais le problème ici, c'est un problème de sécurité.
Les Touadérateurs, appellation des partisans du président Touadéra, célèbrent cet anniversaire en grande pompe à Bangui et dans certaines régions du pays. Anissé Georges Dologuélé, chef de file de l'opposition et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, s'interroge.
Nous ne savons pas si c'est le mot bilan qui sied dans cette situation. Nous ne savons même pas si nous vivons toujours dans notre propre pays. Je suis triste. Je suis triste parce que quand j'entends les dirigeants de mon pays parler, j'ai l'impression qu'ils ont créé un pays fictif dans leur tête où tout va mieux dans le meilleur du monde. Je suis triste parce que beaucoup d'argent va être dépensé, une fois de plus, pour fêter ce qui devait être au mieux une journée de réflexion, de remise en question, une journée de modestie et d'acte de contrition. À défaut d'être une journée, on va dire, de deuil.
Après deux années passées à la tête de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra n'arrive pas encore à asseoir la sécurité promise aux Centrafricains. Plus de 70% du pays est contrôlé par des groupes armés ex-Séléka ou anti-Balaka. Au cœur de la capitale, des groupes armés dictent encore leurs lois aux habitants de PK5, le grand quartier musulman de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Une banque spécifiquement dédiée au secteur agricole au Burkina Faso, la Banque pour le financement de l'agriculture, arrive à point nommé pour un pays qui tire une grande partie de ses richesses de l'activité agropastorale, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Le monde rural aujourd'hui, c'est 80% de la population burkinabé avec comme activité principale l'agriculture et l'élevage. Un secteur agricole, deuxième pourvoyeur de devises après le secteur aurifère et qui vend en cette banque tout un soulagement pour l'ensemble de ce monde rural, se réjouit Bassiaka Daou, président de la Confédération paysanne du Faso.
Ce rêve-là, nous l'avons entamé depuis 1993 à la première journée nationale des paysans à Léo, où nous avons demandé au chef de l'État de créer une vraie banque agricole. Je pense qu'aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Réalité en ce sens que la banque vient d'avoir son agrément. Ça fait une fierté aux paysans de voir aujourd'hui qu'on a mis à leur disposition un instrument de financement de leurs activités.
Le secteur agricole ne bénéficie que de 15% actuel du financement bancaire traditionnel. Un état de fait qui a incité le gouvernement à aller vite afin de faire face au faible taux de financement de ses activités agropastorales en créant cette banque qui y est exclusivement dédiée, explique le Premier ministre Paul Kabatieba.
La particularité de la banque agricole de Faso, c'est que c'est une banque qui est conçue pour les paysans, pour l'agriculture, pour l'élevage. Il va sans dire que ce n'est pas une banque comme les autres. Ce n'est pas une banque universelle comme les autres. C'est une banque dont La vocation, c'est de procéder donc à la transformation de l'économie burkinabé.
La Banque agricole du Faso, qui va disposer d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA, pourra véritablement doper les activités du secteur agricole, espère le président de la Confédération paysanne du Faso, Bassaka Daou.
Cet instrument-là est important pour nous. Dans le sens, dans tous les documents, on dit que c'est une agriculture de subsistance. Or, aujourd'hui, avec des financements, je pense que nous allons passer à l'entrepreneuriat agricole et aller au-delà. Nous pensons qu'avec cet instrument, notre agriculture va sortir de l'ornière de la pauvreté. Et avec cet instrument, nous allons redynamiser toutes nos coopératives pour permettre à nos acteurs d'être des acteurs économiques et avoir des revenus décents.
Depuis la belle aventure de la Caisse nationale de crédit agricole dans les années 80 et qui s'est vite terminée pour des raisons encore inexplicables, la renaissance du secteur agricole et activités connexes vont connaître une certaine embellie avec cette banque dont l'agrément a été octroyé le 14 mars dernier par la commission bancaire de l'UEMOA et qui devrait pouvoir commencer à fonctionner dans seulement quelques mois. Kumurewa Issanapon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La rue Princesse, c'est la rue la plus célèbre de la Côte d'Ivoire. Sa renommée a dépassé les frontières du pays, mais elle n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Yopougon, rue Princesse, une rue qui a perdu de son attrait en raison des assauts répétés des bulldozers du ministère ivoirien de la Salubrité. Il y a quelques années encore, cette rue était le cadre idéal pour de nombreux Abidjanais et un passage obligé pour de nombreux touristes. La rue et ses bars climatisés, ses boîtes de nuit, ses restaurants populaires appelés communément maquis. Ici régnait la joie de vivre. On venait chaque soir et surtout les week-ends s'éclater au maximum autour d'une bière et au son de la bonne musique. Mais tout cela fait désormais partie du passé. Un passé toujours vivace dans l'esprit de Chile Casanova, gérant de bar.
Ce n'est plus la rue des Maquis où avant tout le monde venait faire le show, s'amuser, s'éclater, où il y avait l'embouteillage de personnes, pas de véhicules. Avant c'était une zone touristique, on peut dire. Parce que les gens qui étaient en Europe, quand ils déposaient leurs valises, ils venaient forcément à la rue Princesse pour voir l'ambiance. Mais désormais, ce n'est plus ça. On regrette beaucoup parce que ça donnait du boulot à presque beaucoup de jeunes.
La rue offre aujourd'hui un autre visage. Les bulldozers du ministère ivoirien de la salubrité publique ont détruit plusieurs maquis et bars au nom de la lutte contre l'occupation anarchique des rues, et cela aux grandes dames des gérants des bars.
Quand il y a eu le changement politique en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de maquis qui ont été quand même cassés. Désormais, ça a changé. Maintenant, c'est les bars que nous voyons partout. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde parce qu'il n'y a plus d'attraction.
Le commerce, autrefois florissant, est aussi dans l'agonie, comme le confirme cette tenancière de maquis.
Actuellement, c'est chaud. Hein. On ne reconnaît plus la rue Princesse parce que rien ne marche. On fait la bête, on ne peut pas fermer, se débrouille un peu. Avant, en tout cas, ça marchait bien. Tout est cassé. La rue, c'est pas comme avant, en tout cas.
Mais il y a aussi ceux qui se réjouissent de la transformation de la rue Princesse. Ce sont surtout les riverains.
Je trouve qu'aujourd'hui, bon, ça va, hein, parce que ça fait plus de 8 ans que moi je vis ici. Avant, nos enfants n'arrivaient pas à étudier, nous, on n'arrivait pas à dormir. Aujourd'hui, avec la nouvelle rue Princesse, bon, ça va. Puisque tout est boîte de nuit, tout est bas. Il n'y a plus de maquis, fait le bruit, tout ça.
Avec le déclin de la rue Princesse, de nouveaux lieux de détente et de réjouissance ont vu le jour à Yopougon, au grand bonheur des noctambules et autres fêtards. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.